Et oui, c'est repos le dimanche, il est 20h sur la clé des ondes. Et c'est parti Philippe.
Vous êtes bien sûr à Chaïra et c'est la 260e édition aujourd'hui. En direct dans le studio, Esmeralda, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
T'éloigne pas. Bonjour Progrès.
Bonjour.
Vous nous présenterez donc la chronique de la désobéissance d'André sur Pinard-Sélec, l'insolente et la radicale. Fabienne, bonjour.
Bonjour.
Thierry, bonjour.
Bonjour.
Vous nous présenterez l'éphéméride anarchiste de mars, qui ne sera pas que féministe cette année. Gauthier, bonjour.
Et bonsoir.
Tu nous proposes aujourd'hui de parler du genre.
Tout à fait.
Rémi, bonjour. Tu assureras la technique de cette émission.
Je monte mon micro, oui, bonsoir. Bonsoir. C'est parce que c'est le soir. Oui, j'assure la technique et puis une petite balade à l'Athénée Libertaire.
Voilà, avec Hugo Paglietta. Je vous livrerai la chronique internationale autour de deux prisonniers politiques, Julian Assange à l'Ouest et le mathématicien libertaire russe Azat Miftakov, réfractaire et prisonnier politique à l'Est. Et nous conclurons sur les rendez-vous de l'agenda. Pour la rubrique l'invité, Esmeralda, tu nous proposes le journal Casserole avec son dernier numéro et le dossier d'actualité Femmes et Ruralité.
Absolument.
Et avec Progrès, vous nous lirez quelques courts poèmes de la dernière publication illustrée d'André, André Bernard, intitulée « Les Didares ».
Oui, absolument.
Fabienne, tu nous proposeras de revenir sur l'actualité récente au sujet des étrangers dans la résistance en France, des actions de soutien au peuple palestinien, de la lutte anti-croix, de l'IVG et des luttes écologiques ou écologistes en cours et à mener. Et nous serons toujours accompagnés par des illustrations musicales en chansons portées par des femmes. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Achaïra, c'est l'émission du Cercle Libertaire Jean Barué, animée par des anards d'ici et d'ailleurs.
Achaïra, c'est le rendez-vous mensuel de pollinisation libertaire de La Clé des Ondes.
Et on est parti.
Voilà, donc cette émission reste marquée, comme nous, par la guerre qui ne cesse d'endeuiller le monde dans lequel nous vivons, Ukraine, Palestine, Soudan. La raison et la liberté sont-elles aussi des victimes collatérales de la guerre et de la propagande de guerre? C'est ce que l'on vit en ce moment en France, avec un président qui en remet une couche envisageant l'envoi de troupes françaises pour combattre en Ukraine, au moment même où le Service National Universel, le SNU, essaie de se déployer dans tous les établissements scolaires. Nous apportons tout notre soutien à celles et ceux qui résistent à la guerre et à la propagande de guerre. Et tout de suite, nous lançons la chronique de la désobéissance, la chronique d'André Bernard.
Chronique de la désobéissance.
Insolente et radicale, et libre par la capacité naturelle et spontanée que possède Pinard-Sélec de créer des liens avec le monde qui l'entoure, de créer des ponts entre les différents engagements féministes, antimilitaristes, écologistes, et avec les prostituées et les transsexuels, et avec les Kurdes et les Arméniennes, sans oublier les enfants des rues et les Roms. La renommée incontestable de cette femme, qui ne se considère que comme un tout petit point dans un tableau, est due à l'expérience de vie tout à fait exceptionnelle. Cette renommée ne doit pas faire oublier qu'elle est en danger, exposée à des menaces de mort qu'elle endure avec peur et courage. On doit à Guillaume Gamblin, avec une certaine urgence, dit-il, d'avoir réalisé des entretiens avec Pinard-Sélec, dit-il aussi, au cas où. On n'est pas immortel, immortel. Il pourra rester quelque chose de cette expérience. Née en 1971 à Istanbul d'une mère pharmacienne et d'un père avocat, « On ne nous a jamais parlé de Dieu à la maison », nous dit-elle. Dans un milieu militant, artistique et littéraire, où on ne se demandait pas, lors des rencontres, si on avait été en prison, mais dans quelle prison on était. Son père sera d'ailleurs détenu pendant 4 ans et demi, après le coup d'état militaire de 1980.
Alors, elle est sociologue aussi. « Je ne voulais pas être quelque chose, je voulais faire quelque chose ». C'est en enquêtant sur le mouvement armé kurde que Pinard deviendra sociologue, mais avec quelques réserves. Prison et torture. En 1998, des policiers la kidnappent pour qu'elle donne les noms des militants kurdes qu'elle a rencontrés, ce qu'elle refuse. Dénudée, les yeux bandés, elle sera torturée. Je ne mangeais pas, je ne buvais presque pas. Le plus grave, c'est quand on me suspendait à un mur, avec les mains tirées et collées dans le bas du dos, et tout craquait et se déchirait. Ma colonne vertébrale se brisait. Et puis, ce furent les électrochocs dans les oreilles, sur les seins, sur la tête. Moments douloureux sur lesquels Pinard ne souhaite pas que l'on s'attarde. Elle ne parlera pas et finira par être traînée en détention au milieu d'autres prisonnières politiques qui prendront soin d'elle. Elle est alors accusée de terrorisme en relation avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et condamnée à la prison à perpétuité en 2013. Après plusieurs acquittements, les tribunaux feront sans discontinuer appel. Et c'est sous la pression de ses proches qu'elle s'exile en 2009 en Allemagne, puis en France, dont elle obtiendra la nationalité.
Les enfants des rues. Pinard a 16 ans quand elle entre en contact avec un groupe d'adolescents qui mendient et se droguent. Plus tard, elle découvrira les squats de Paris, puis ceux de Berlin. Et comment il est possible de créer des choses dans les rues, nous dit-elle, et d'utiliser et d'occuper les rues différemment. Elle convaincra les jeunes de créer un atelier des artistes de rue. Travail de la terre, poterie, de vieux journaux sont trempés, malaxés, peints, ils deviennent des sculptures, des masques, des cendriers, etc. Et elle nous dit dans ses ateliers, nous voulions créer une autre parole. Une troupe de théâtre itinérant est créée, de même qu'un petit journal.
Le féminisme. Si après la prise de pouvoir de Kemal Atatürk, l'expérience féministe émerge à la fin du XIXe siècle, la République kémaliste imposera cependant un cadrage militariste, patriarcal et hétéronormatif. La femme restera, dans la vie privée, totalement assujettie à la volonté de son père, de son mari et bien évidemment de son État. État avec un E majuscule, bien sûr. La gauche contestataire, de son côté, ne faisait que reproduire les rapports patriarcaux existants. Si le féminisme ne peut pas tout changer, on ne peut rien changer sans le féminisme. Telle est l'opinion de Pinard Sélec. Avec des militantes de toutes sortes, prostituées, journalistes, artistes, danseuses, elles décidèrent de créer Amargi, Liberté, une coopérative afin de lutter contre le patriarcat, lutter contre le patriarcat, c'est lutter contre tous les systèmes de domination. Écologiste, c'est la lecture de Murray Bookchin qui lui ouvre les yeux sur la dimension sociale et politique de l'écologie. La banalisation de l'esclavage des animaux ou l'occupation des forêts et des mers favorise l'esclavage, la colonisation, l'exploitation des humains. Pour autant, pas de priorité d'une lutte sur une autre, car les rapports de domination se nourrissent les uns les autres. Il s'agit d'intervenir là où les pieds se trouvent.
Antimilitariste et non violente. Nous citons « J'ai très vite compris » que quand tu es dans une organisation armée, tu ne peux jamais agir de manière démocratique et libertaire. Quand tu fais le choix des armes, l'autoritarisme, la hiérarchie et en même temps des relations extérieures un peu sombres et floues se mettent en place. Fin de citation. Par ailleurs, à propos des militants du mouvement armé kurde, elle se posait entre autres questions « Mais quel est l'effet de cette violence et de ce mode d'organisation sur l'aspiration à la liberté qui les motive ?» Et elle se déclare surprise de constater que, contrairement à la Turquie, où l'antimilitarisme est né au sein de la mouvance libertaire, en France, la non-violence fait l'objet d'un rejet et parfois d'une animosité d'une partie importante du milieu libertaire. Dans cette chronique, André Bernard nous parlait du livre de Guillaume Gamblin, L'insolente dialogue avec Pinard Sélec, paru aux éditions Cambourakis et Revue Silence en 2019. À titre de rebond, un petit mot sur Guillaume Gamblin, qui avait fait le déplacement avec Pinard Sélec à Bordeaux en 2019 à l'Escale du Livre pour justement présenter ses dialogues qu'ils avaient présentés sur scène. Guillaume Gamblin est rédacteur de la revue Silence, il est militant de la non-violence et de l'écologie sociale. Bon, il vit à Lyon et il est l'auteur d'un livre, La force de l'autonomie, Gandhi, précurseur de la décroissance, point d'interrogation. et avec Pierre Sommermeyer, du recueil « Non-violence dans la Révolution syrienne » paru aux éditions Libertaire et Silence en 2018. Cette revue Silence, dont on parle, effectivement, c'est une revue mensuelle indépendante qui est basée à Lyon, qui est publiée depuis 1982 et qui explore les alternatives concrètes et les chemins politiques vers la décroissance et l'écologie sociale, en cherchant à interroger les enjeux sociaux, féministes ou encore néocoloniaux de nos modes de vie. Le livre est paru aux éditions Cambourakis et Silence, on l'a dit. Cambourakis, alors Cambourakis Isabelle, qui est-elle? Eh bien, c'est une éditrice française qui a créé une collection de livres, collection Les Sorcières. Bon, c'est des éditions assez intéressantes qui, là, se proposent de, nous l'avons dit déjà lors d'une précédente émission et pour notre livre, de revisiter l'orthographe et le système d'accord masculin-féminin. Et elle nous dit en avant-propos, Isabelle Cambourakis, que l'idée que le masculin représenterait l'universel est vivement critiquée par les féministes. C'est une forme de domination patriarcale dans la langue française. Et la collection Sorcières se veut un espace d'expérimentation de la langue. Les autorices et traductrices utilisent les règles d'écriture inclusive de leur choix et elles utilisent également le système d'accord avec le nom le plus proche. Voilà pour la profession de foi de cette collection Les Sorcières. Parmi les titres, nous trouvons différents titres extrêmement alléchants. On ne peut qu'inviter nos auditrices à consulter sur Internet cette collection. Mais entre autres, on a relevé un titre, c'est « Devenir Rosie ». Alors ça nous parle de près. Hein. Et oui, Rosie la Riveteuse. Voilà, la Riveteuse que l'on voit souvent, figure mythique, qui maintenant s'illustre dans les manifestations féministes ou autres, au moment des retraites.
Et bon, derrière la camionnette de la FSU.
Voilà, et nous espérons bien les revoir, donc avec leur bleu de travail, le turban à pois, et puis les chansons chorégraphiées avec les gants jaunes. Tout le monde se souvient d'eux, c'est la faute à Macron, entre autres. Alors donc, les éditions Cambourakis ont édité ce livre Devenir Rosie la Riveteuse et la performance féministe du genre. Un autre livre aussi qui a attiré notre attention, mais on ne pourra pas en parler vraiment cette fois-ci, c'est Des femmes contre les missiles. Voilà, qui a fait l'objet d'un documentaire qui est passé le 8 février à l'Athénée Libertaire. Peut-être que nous en donnerons écho lors d'une prochaine édition. Pinard Selek, qu'en dire? Eh bien, énormément de choses, puisque on peut dire qu'il y a un sous-titre de ce livre qui dit que ce sont les mille vies de Pinard Selek, ses livres. D'abord, puisque bon, tout le monde sait qu'elle est sociologue, elle travaille maintenant à l'université de Nice. Elle a un poste d'enseignante, d'enseignante fixe, de pérenne, depuis 2022. Elle a publié des essais, entre autres « Devenir homme en rampant », qu'elle est venue présenter à Bordeaux il y a quelques années à la fac. Bon, c'était absolument remarquable.
Elle était passée aussi à l'Athénée Libertaire.
Aussi à l'Athénée Libertaire, absolument, on s'en souvient. Oh. Et on a même une photo avec quelqu'un qui l'interviewe, qui a un pull rayé et te ressemble beaucoup, Rémi.
C'est étonnant, ouais.
Oui,
c'est étonnant.
Il me semble même que c'était toi.
Absolument. Non, mais c'était une belle rencontre parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un cœur, mais qui est énorme. Elle est vraiment puissante. Oui. On sent qu'elle
généreuse,
est généreuse. Ouais. Elle aime les gens. Et donc, de suite, ça vibre quand on rencontre. C'est pas que des écrits, c'est aussi l'action, c'est une certaine réalité, quoi.
Voilà. Oui, effectivement. Donc, elle a écrit des essais, des romans, des contes, des préfaces. Dont une préface à l'antimilitarisme en Turquie d'Aurélie Stern, dont on a déjà parlé lors d'une précédente chronique, et du livre de notre ami Floréal Romero, Agir ici maintenant. Voilà des... Et puis, bon, c'est comme disait Rémi, ces engagements multiples qui sont absolument extraordinaires, à Istanbul depuis l'âge de 16 ans, Les enfants des rues, les squats, les ateliers d'accueil, les combats féministes, ses liens et son implication auprès des trans, des LGBTI, des prostituées, bon, et puis des études sociales de proximité qu'elle a développées auprès des Kurdes, auprès des Arméniens. Tout son travail sur l'antimilitarisme, qui est absolument fondamental, et même auprès des femmes handicapées. Et puis, c'est tous ces réseaux qu'elle a su créer avec des points de solidarité, ces ateliers d'enfants des rues, mais également à Margy, dont nous avons parlé, la coopérative de réflexion, non mixte d'ailleurs, et une revue féministe du même nom. Elle a également organisé des marches de femmes avec des milliers de femmes qui ont convergé vers la capitale, vers Ankara et puis vers Istanbul. Et puis, elle a créé ensuite en France une plateforme d'écologie sociale. Enfin bon, évidemment, vraiment énormément, énormément de choses. Il faudrait parler aussi de son lien avec Ocalan. Puisque Ocalan, lorsqu'il a lu ses livres, il a demandé à ce qu'elle puisse, d'une manière ou d'une autre, intervenir de manière à promouvoir des actions qui seraient des actions non violentes. Donc, elle a d'une certaine manière aider au virage du PKK. Et puis bien sûr, le prix à payer, c'est tous les procès qu'elle a eu, puisqu'en fait, à partir de son engagement auprès des Kurdes, elle a connu dès juillet 98 des ennuis, d'énormes problèmes. À Istanbul, elle a été arrêtée, emprisonnée, torturée, c'est ce que nous avons vu. Elle passait en procès, elle était acquittée en procès, et aussitôt le parquet faisait appel, et de nouveau elle se retrouvait en procès. Bon, c'était vraiment une situation absolument inextricable. On peut parler d'acharnement, à tel point que au terme de son emprisonnement de 2 ans et demi et d'une certaine vie qu'elle a menée avec beaucoup de courage en créant des tas de choses et en créant tous ces réseaux de solidarité, eh bien, elle s'est résolue à l'exil parce que là, on menaçait pour le procès suivant de l'emprisonner à titre préventif. Donc voilà, là elle est partie en Allemagne, puis en France.
Mais moi je me souviens aussi dans ce qu'elle écrit, dans les récits qu'elle pose notamment sur la réalité de la prison, c'est très fort. C'est-à-dire que à la fois elle se retrouve donc avec des centaines de femmes dans des prisons où elles sont les unes sur les autres et elle ne parle que des instants de solidarité, de fraternité, enfin de sororité entre ces femmes. Et voilà, c'est quelqu'un qui n'arrête jamais de lutter.
Absolument. C'est pour ça, c'est les mille vies d'Épinard. C'est très, extrêmement difficile de les résumer. Et encore bravo, merci à Guillaume Gamblin d'avoir recueilli tous ces propos et d'en avoir fait un ouvrage, parce que effectivement Pinard Sélec a toujours été menacée. Je me souviens quand elle était venue à Bordeaux à l'université, à un moment donné elle s'est arrêtée, elle a dit là je ne peux plus parce qu'il y a des présences indésirables dans l'amphithéâtre. Alors bon, ça s'est arrêté, on n'a pas compris, mais en fait c'était les services secrets turcs qui l'a suivi, et elle a reçu encore des menaces de mort. Enfin bon, elle est persécutée, même maintenant elle est persécutée. Et là donc elle est en attente d'un procès qui sera le cinquième, qui a été remis, c'est toujours des péripéties parce que c'était au mois de septembre, ça a été remis, maintenant ce sera au mois de juin. Voilà, au mois de juin, elle doit attendre de manière à savoir ce qu'il en est d'elle, mais à un moment donné, lors d'une décondamnation, c'était une condamnation à mort. Après, il y a une condamnation à perpétuité. Enfin, chaque fois, et sur un dossier parfaitement vide, parce que l'attentat dans le marché aux épices, en fait, il a été prouvé à chaque fois qu'en fait, elle n'y était pour rien, et que c'était pas un attentat, que c'était une fuite de gaz. Enfin bon, voilà. Mais ça ne fait rien. L'acharnement est là. Elle est là, mais c'est son comité de soutien et ses comités de soutien sont là aussi.
Ils sont, oui, et d'ailleurs, c'est formidable, ils sont très mobilisés. Oui. Et d'ailleurs, oui, on va dire même la filière du livre, que ce soit des éditeurs, des écrivains, sont très proches d'elle. Moi, à chaque fois, je suis assez impressionné par ces collectifs et à Bordeaux, ces gens qui sont très attentionnés au devenir de Pinard. En fait, cette générosité, en fait, lui est rendue aussi par tous ces moments de ce mouvement de solidarité.
Voilà, donc pour nos auditories, il suffit de...
Oui, non, je disais qu'elle risque le...
Ben, c'était la prison...
L'extradition.
Ah oui, bon, ça avait été demandé aussi. Bon, ben, parce qu'elle a la nationalité française maintenant.
Pour, mais bon. 24.
Oui, oui. Ça a été demandé, mais pour l'instant, bon, c'est sans effet. Mais enfin. Donc, il suffit de tapoter Pinard Sélec sur Internet. Et bon, il y a toutes les informations sur ses combats et l'actualité. Voilà.
On passe un petit morceau de musique, alors, c'est ça ? Allez, c'est parti.
Pâle ou vermeil, brune ou blonde, bébé mignon. Dans les larmes, ça vient au monde, cher Aguignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, chair à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail, du matin au soir, ça turbine, chair à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron, dans un guet-apens, ça se viole, chair à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, chère à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, chère à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, chère à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors, ça se fout sur la paille, chair à prison. D'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant. Ça va geindre dans un hospice, chair à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel. Quand c'est crevé, ça se découpe, chair à scalpel. Patron, t'as des lyogabales, des froids saisis. Quand vous tomberez sous nos balles, chair à fusil. Pour que chaque chien sur vos trognes pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, chair à macar.
Vous avez bien sûr reconnu Fille d'ouvrier, puisque c'est un air que nous passons très régulièrement. Il était interprété là par Michel Bernard. Donc, Fille d'ouvrier, j'y reviens. C'est donc une chanson qui a été écrite en 1887 par Jules Jouy, qui décrit la condition des ouvrières depuis leur plus jeune âge jusqu'à leur mort, évoquant travaux pénibles, manque d'argent, viol, prostitution et déchéance finale. Michel Bernard, elle, donc l'interprète de cette version, se dit sensible à la chanson populaire et au thème du travail ouvrier et des luttes. Et notons qu'en 2001, donc c'est pas tout neuf, mais c'est intéressant, elle a créé un spectacle musical consacré à Louise Michel. Voilà. Vous écoutez Achaïra, émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1.
Bonsoir à tous. Alors, tout de suite, le genre est une construction sociale dont la perception relève d'innombrables illusions. Ma thèse est que ces illusions sont à combattre et que ces, illusions sont pour la plupart, si ce n'est la totalité, connectées aux autres combats à mener. Voilà pourquoi, quand on en arrive parfois à dire de manière synthétisée qu'il faut abolir le genre. Phew, tout un programme. Mais bon, pas beaucoup de temps. Et non, je parle pas de la planète. Donc, je m'intéresse dans cette première partie à son lien avec la tradition, principalement. Le genre, c'est un phénomène sociologique. Première approche, que trop de personnes conçoivent comme étant juste, est que le genre est synonyme de sexe biologique. Pas du tout. La grosse différence, c'est que le sexe biologique correspond de manière par ailleurs pas si binaire que ça, à la différenciation sexuée des corps d'une espèce. Là où le genre correspond à l'identité profonde de la personne sur cette question de perception de sa propre identité. Que cela soit pour des raisons de comportements sociaux ou autres, comme je vais expliciter maintenant. En effet, au fur et à mesure du développement de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte et de l'adulte même, les codes explicites et implicites, tels que les règles à la cour de récré, les dynamiques sociales, etc., ainsi que les habitudes comportementales et vestimentaires, sont plus ou moins imposés selon l'époque, le pays, la famille et de manière large son environnement social. Plein de facteurs qui s'entrecroisent avec tant d'autres facteurs. Quand on parle de cet apprentissage des codes sociaux, ils dépendent notamment du contexte socio-économique. Au final, parmi ces éléments connectés, on peut penser facilement aux classes, au combat du féminisme, à la mort du capitalisme et même de la tolérance envers cette extrême droite si provocatrice. Parenthèse, quand on voit les horribles lois anti-trans qui passent dans certains États des États-Unis, quand on voit la politique ostensiblement absurde, voire inique, même racine que ennemie de Macron, la montée de l'extrême droite, que ce soit dans les pays relativement safe ou autre part, la montée en puissance des pays dans la politique envers les personnes trans est tout aussi inique, l'inflation qui n'en finit pas, bref, on peut penser que l'espoir se perd. Mais ce n'est pas une raison. Le combat doit rester chaud. La flamme nous brûle encore, alors qu'elle brûle aussi les autres. Hein ? Maintenant, je vais revenir sur pourquoi j'ai dit plutôt « selon l'époque ». On est toujours sur cette idée que l'illusion entourant le genre peut provenir de l'histoire, avec un grand H, que cette histoire est « une », entre guillemets, et qu'il n'y a pas d'alternative. Bon, il y a quelques 8 générations à peu près, au XVIIIe siècle, eh bien, les hommes de la haute portaient des bas. Bizarre. Aujourd'hui, la plupart des hommes cis n'en portent pas. Serait-ce que la conservation de la tradition sociale s'illusionne en s'imaginant un passé idéalisé ? Et je prends ici mes casquettes de droitard qui n'y connaît rien. Non, c'est la gauche qui a tort, toujours. Même si je ne le dirai jamais à voix haute. Bon, promis, j'arrête. Il y a plein d'autres exemples aussi. En Inde, ces personnes d'un troisième genre qui peuplent un village entier, les Hijras. Les nombreuses ladyboys du quartier de Pattaya à Bangkok. Bref, cette notion de genre, et surtout de binarité de genre, est certes partagée un peu partout, mais aussi remise en question un peu partout et depuis pas mal de temps. Les Hijras existent depuis l'Antiquité. Ce n'est pas non plus une question de biologie. De 1, le genre n'a rien à voir avec le sexe biologique d'une personne. De 2, même si c'était entre guillemets le cas, ce sexe biologique n'est pas non plus binaire. Vous voyez déjà les syndromes de Turner, de Klinefelter, donc quand on a par exemple un chromosome X0 ou XXY. Les personnes intersexes, enfin bref, que ce soit sur le plan chromosomique, gonadique ou phénotypique, le sexe est beaucoup plus complexe que juste homme-femme. Mais l'illusion n'est pas seulement dans une idéalisation réfractaire de la culture. Elle est aussi dans l'idéalisation de toute la culture. L'image, avec un grand I, que ce soit le marketing ou les réseaux sociaux, on vend les aspects, les meilleurs aspects sans parler des moins bons. On ne met plus au devant de la scène le factuel progrès technique. Et ce, même en science, il faut vendre son article. Hein. Ou l'endurance, la longévité d'une méthode. Mais uniquement ses bienfaits à court terme. Oui, j'ai un corps parfait. Mais sous cet angle et cette lumière uniquement. Bref. Toute cette illusion de l'image, toute cette capitalisation de l'image, a un effet aussi sur les personnes trans. Certaines personnes trans, c'est-à-dire dont le genre n'est pas celui qui leur a été assigné à la naissance, éprouvent de la dysphorie de genre. C'est un écart, une inadaptation de leur corps avec leur identité profonde. Cela peut être des parties spécifiques ou la silhouette en général. À l'ère d'Instagram, c'est empiré par les mêmes phénomènes qui empirent la dysmorphie que beaucoup de personnes cis ressentent. On pense aux Instagram girls ou aux bodybuilders. Mais c'est tout à fait différent. Le mal-être, parfois extrême, produit dans le cas de la dysphorie, est intrinsèquement liée au genre. Ce n'est pas une raison de baisser les bras. Nous nous battons pour faire éclater la vérité aux yeux des ignorants et des charlatans. Cela implique aussi de casser les stigmates des défauts. Tout n'est pas parfait, et rien n'est parfait, je dirais personnellement. Et je ne parle pas ici d'actions condamnables. Enfin, comme je l'ai peut-être déjà dit, si vous m'avez écouté quelques mois précédemment, la diversité est notre force, notre beauté et notre amour.
Merci Gauthier. Alors, tout d'abord, tu prévoyais ce texte pour le mois de juin, où se déroulent les marches des fiertés partout en Europe. Et comme en juin, tu seras en stage à l'étranger, si je me souviens bien.
Tout à fait.
Voilà. C'est bien, il n'est pas contrariant. Nous t'avons proposé de le diffuser en mars, le mois de mars étant notamment marqué par la journée pour la défense des droits des femmes. Les universitaires qui traitent du sujet du genre disent que le mouvement a débuté il y a 40 ans à partir des remises en cause formulées par les mouvements féministes. Est-ce que ce lien avec les revendications féministes te semble-t-il pertinent ?
Oui, tout à fait, il me semble pertinent. Non seulement il y a aussi cet aspect contestataire, cet aspect aussi de réalité refoulée, alors que ça soit aussi chez les victimes qui, suite à cette oppression, se remettent en question, malheureusement, remettent en question leur propre réalité, ce qui est triste. Mais au final, effectivement, oui, tout à fait. Et même aussi dans les combats actuels, je pense tout à fait que nombre de combats sont à faire ensemble, notamment entre donc le combat LGBTQ+ et les revendications féministes. Tout à fait. Je ne pense pas, malgré ce que peut-être certains diraient, je pense au TERF pour ceux qui connaissent le terme, qu'il faut exclure les personnes LGBT des revendications féministes du tout.
Ça serait bien que tu donnes la définition de TERF, tiens.
Alors, TERF, il me semble que c'est trans exclusive, je ne sais plus, pour le R, féministe. Voilà. Donc, effectivement, ce sont des femmes qui s'allient généralement aussi à la droite et à l'extrême droite et qui rejettent tout à fait les femmes trans dans leur combat.
Oui, c'est apparemment il y a un groupe qui sévit à Bordeaux. Hein, on les avait notamment remarqués, si je puis employer ce terme, quand il y a eu un soutien, je crois que c'était à Pessac ou à Mérignac, sur l'assassinat d'une femme par son mari ou son conjoint. Et effectivement, il y a eu un problème au moment du rassemblement en soutien parce que elles étaient là avec. Les mouvements habituels féministes. Je ne sais pas sous quel nom elles apparaissent, enfin, je l'ai oublié, mais effectivement, tu as raison, elles existent. Ouais. Alors, le deuxième point que j'avais envie de voir avec toi, ce n'est pas vraiment une question, mais tu vas me dire si tu as des réactions par rapport à ça ou pas. Voilà, j'ai regardé un peu les études sur le genre, les inégalités et les discriminations ne seront plus financées par la région Île-de-France. Ça, c'est une information. Mmh. Telle est la volonté de la très droitière présidente LR, Valérie Pécresse. Parce qu'effectivement, traditionnellement, la région soutient des domaines d'intérêt majeurs en matière de recherche et le genre depuis 2006. Tout ça à l'initiative d'un élu vert, s'appelle Marc Lipinski, qui était convaincu de l'innovation de ce champ. Est-ce que de construire le genre est dangereux pour l'ordre patriarcal et l'hétéronormalité ? Et l'égalité peut-elle aussi mener à l'autodétermination, y compris en matière de sexe ?
Eh bien moi, je pense qu'effectivement, cette déconstruction permet tout à fait de repartir sur des bases saines. Ça remet un peu en question effectivement l'ordre patriarcal et l'hétéronormativité. Voire même beaucoup, puisque j'ai l'impression souvent qu'il y a une certaine peur de l'inconnu dans cette structure et que tout à fait cette liberté de genre, en fait, tout à fait, et bien leur fait très peur, entre guillemets. Et pour ce qui est donc de l'autodétermination et de l'incompréhension en matière de sexe, je pense tout à fait, enfin, si je comprends bien le sens, que cela permet une plus grande liberté de l'individu de s'autodéterminer, si j'ai bien compris.
Mais les hiérarchies de genre s'articulent toujours en pratique à d'autres hiérarchies sociales. Les études de genre sont fondamentalement critiques. Ces savoirs dérangent, analyse la sociologue au CNRS, Laure Bérény, qui est également co-éditrice scientifique de l'encyclopédie. Elle dit encore, ils sont des outils puissants de déstabilisation des distinctions et hiérarchies qui apparaissent comme naturelles entre les hommes et les femmes, entre les hétéros et les homos. Est-ce bien ce que tu as voulu mettre en avant dans ton texte ?
Oui, je pense que c'est une des choses que j'ai mis en avant. Tout à fait, effectivement. Donc, continuer le combat, s'allier entre combats et tout à fait, du coup, s'entraider et voir que les domaines sur lesquels s'intéressent, et ben par exemple les personnes qui revendiquent du côté des LGBT arriveront peut-être aussi à certaines solutions ou idées qui peuvent être bénéfiques à des personnes qui revendiquent pour le féminisme ou pour l'égalité pour plein d'autres égalités. Donc si j'ai bien compris, il me semble que c'est tout à fait ce que j'ai voulu mettre en...
Donc c'est bien ce que j'avais compris en lisant ton texte, donc tout va bien. Alors après je me suis amusée, si je puis dire, à regarder l'évolution de la définition du genre entre deux dictionnaires et deux époques. Donc le dictionnaire Quillet, édition 1948, et...
C'est une antiquité.
Faut pas dire ça.
Les dates de naissance de certains autour de la table.
Ah oui, non, mais bon.
Oui, mais les deux là-bas, non. Le dictionnaire Quillet et l'autre, le dictionnaire Robert 2024. Donc là, effectivement, pas de remarque perfide de
non,
ta part.
Aucune.
Alors, revenons au Quillet. La première des définitions, il y a quatre points de définition qui sont présentés dans un certain ordre. Enfin, donc le premier, réunion d'espèces qui ont un ou plusieurs caractères communs, genre de plante, genre humain. Le deuxième point, manière d'être, de se conduire en société, bon genre, mauvais genre. Le troisième, partie, division servant à classer les ouvrages de l'esprit, genre littéraire. Et enfin, la dernière, forme des mots selon qu'ils représentent des personnes du sexe masculin ou du sexe féminin, des animaux et des choses censées être de l'un ou de l'autre sexe. Donc ça, c'est le Quillet 1948. Je n'ai pas vu si Quillet avait évolué depuis dans ses définitions. Je n'ai pas creusé. Celui-là, on l'avait sur une étagère à la maison, donc ça tombait bien, c'était pratique. Le Robert, édition 2024, donc là, c'est du tout neuf, hein. Premier point, donc groupe d'êtres ou d'objets concrets ou abstraits présentant des caractères communs. Donc, on est en tout à fait concordance avec le premier point du Quillet. Le deuxième, construction sociale de l'identité sexuelle. Donc ça n'existait pas en 1948. Genre et sexe, identité de genre, genre auquel une personne s'identifie, homme, femme, les deux à la fois ou ni l'un ni l'autre. Troisième point, catégorie d'œuvres définie par la tradition, d'après le sujet, le ton, donc genre littéraire. Et le dernier, là aussi, catégorie grammaticale, suivant laquelle un nom est dit masculin, féminin ou neutre. Ça évoque des choses dans ton esprit. Tu as envie de rebondir ?
Oui, donc déjà effectivement on voit que donc le genre en question en tant que phénomène social ou construction sociale, il s'agit plus du quatrième point du dictionnaire Quillet ou alors tout à fait du deuxième point dans le cas du dictionnaire Robert de 2024.
Ah, c'est monté dans la hiérarchie.
Tout à fait aussi. Ça peut aussi faire notion effectivement bon genre mauvais genre des hiérarchies.
C'est vrai.
Donc effectivement, il faut. Alors j'ai regardé un peu ça effectivement pendant ma recherche. Il faut savoir donc le mot genre avec cette telle acceptation provient en fait d'une utilisation du mot gender en anglais, alors par la première fois dans, avec un sens non grammatical dans une publication scientifique américaine de 1955 par le psychologue et sexologue John Money dans un article où il introduit le concept de rôle de genre, gender role. Donc ça, ça vient de Wikipédia. Hein. Vous tapez genre désambiguation, vous récupérez la construction sociale et vous trouvez ça dans un des paragraphes. Donc tout à fait, en fait, effectivement, que ici, il faut bien le différencier de l'aspect grammatical ou de l'aspect scientifique. Ça n'a rien à voir avec l'arbre phylogénétique ou quoi que ce soit. Il s'agit donc, comme j'en parlais, de l'identité profonde d'une personne.
Ok, eh ben, merci. Et juste pour conclure sur ce point, même si c'est encore trop tôt pour vous donner le jour exact, mais le coup d'envoi de la Marche des Fiertés 2024 de Bordeaux, puisque donc c'était normalement le but pour présenter cette chronique, sera donc donné en juin, mais la date n'est pas fixée, mais on sait que ça se passera à 14h sur la place des Quinconces, avec un programme riche qui ira jusqu'à 23h, avec des concerts, des discours, spectacles, de nombreuses autres surprises. Et le parcours ira jusqu'au jardin botanique, donc rive droite. Voilà, nous vous en reparlerons bien sûr dans l'agenda de juin.
Sauf les mouchards et les gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes aux larmes, des veuves et des orphelins. Paris soit de la misère, les heures même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça prend le gant, le manche, c'est mauvais jour. On la finiront et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on rame au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les jeunes avant de bouger. Valets de rois et d'empereurs, oui, mais ça prend le dent, le manche, c'est mauvais jour. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça prend le dent, le manche, ces mauvais jours la finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres.
La semaine sanglante, elle a été écrite par Jean-Baptiste Clément et dénonce le massacre des communards par les Versaillais durant les derniers jours de la Commune. Elle est ici interprétée par Rosalie Dubois, chanteuse engagée, oubliée, quoique toujours vivante, mais elle est née en 1932. Le morceau est extrait d'un album appelé « Chant de révolte » 1796-1935, un album où figurent notamment « Ni Dieu ni Maître »,« L'International », »,« Gloire au XVIIe ». Excusez du peu quand même. Hein. Et vous écoutez toujours Achaïra, émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1.
L'invité.
Voilà, donc que pour cette invitée, c'est la nouvelle livraison de la revue Casserole, celle de février-avril, le numéro 27. Et donc, le dossier, c'est Femmes et Ruralité que nous présentait Esmeralda. Et donc, je vais commencer par le début de la revue qui commence par 6 voire 8 articles sur le drame palestinien. Le premier article nous invite à revenir sur l'histoire, une histoire qui n'a pas commencé le 7 octobre et qui rappelle que masquer l'histoire des autochtones avant l'arrivée des colons est une façon de déposséder un peuple. Ainsi, on commence l'histoire des Amériques avec l'arrivée des colons britanniques pour nier l'histoire des Amérindiens et ainsi s'approprier leurs terres. Le premier article, quand même, est assez long, de 3 pages. Il remonte jusqu'au 19e siècle, aux exactions dans les communautés juives en Europe, en Russie, puis aux origines du sionisme politique et nationaliste avec Herzl, puis le projet de trouver un foyer garanti par le droit public pour le peuple juif en Palestine, qui convient aux antisémites comme Balfour, le premier ministre du Royaume-Uni, qui préfère voir les juifs en Palestine plutôt qu'en Grande-Bretagne. Et puis la colonisation commence dès le XXe siècle, d'abord par le rachat de terres, il nous dit, puis après tout un lot avec l'expulsion des fermiers métayers, déjà, et une longue oppression avec son lot d'expulsions, d'exécutions, de promesses non tenues, de checkpoints, de silences internationaux, qui ne pouvaient aboutir qu'au drame du 7 octobre 2023 et sa dramatique suite, bien au-delà du œil pour œil, dent pour dent, dans une guerre asymétrique. Ça, c'est le premier article. Suit un témoignage d'une militante pacifiste israélienne, confrontée directement au 7 octobre et à la mort de proches dans le kibbutz Be'eri. Elle nous dit ses actions, ses interrogations et son engagement continu. Allait-elle continuer à accompagner les Palestiniens pour assurer un tant soit peu leur sécurité? Et c'est cette opposition collective à la guerre, dans la solidarité, qui donne la force de continuer à accompagner les familles palestiniennes qui ont vu leur maison détruite par l'armée israélienne et les colons. Ensuite, on a la présentation d'un ouvrage anti-sionisme, une histoire juive, l'ouvrage de Béatrice Orez, Michel Siboni et Sona Feldman, toutes trois membres de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix.
Oui, l'ouvrage qui a été présenté à Bordeaux, à Talence, à la librairie Georges, en janvier. Oui.
Voilà, donc il revient sur les amalgames, anti-sionisme, antisémitisme, entre juifs sionistes et Israël, etc. Voilà, il donne beaucoup la parole à de nombreux juifs et juives antisionistes. Mmh. Voilà. Il y en a aussi un poème de Refat Al-Harir, un poète palestinien assassiné donc par l'État d'Israël la nuit du 7 au 8 décembre lors d'une frappe à Gaza. Et il illustre un message, Peace in Palestine. Si je dois mourir, tu dois vivre pour raconter mon histoire. Le poème continue. Si je dois mourir, que ce soit porteur d'espoir, que ce soit un conte. C'était en novembre 2023. Un autre petit article nous annonce la mort de Noël, car ses parents sont morts sous les bombes. Il tente de rire pour ne pas pleurer. Mais il se termine par quelques phrases de personnalités médiatiques en France qui expliquent que la mort des enfants palestiniens, ce n'est pas pareil. Et dégueulasse, conclut-elle. Oui, dégueulasse, comme c'est Catherine Forest et Bernard-Henri Lévy. Et puis, il y a un autre cri du cœur d'une manifestante dans le Limousin, qui s'indigne d'avoir subi le matraquage médiatique en France, qui lui disait que la vie israélienne avait plus de valeur que la vie palestinienne, sans que cela suscite plus d'indignation. Voilà. Et elle rappelait, le mal ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. C'est une phrase à ne pas oublier d'Albert Einstein. Puis ensuite, il y a un texte du GLUP, le groupe Limousin de l'Union pacifiste, qui s'adresse à l'orphelin emblématique du monument de Jean Sou. Il revient sur les discours guerriers du président français, qui en appelle toujours à la légitime défense. Et il rappelle que quand un pays en occupe un autre, il construit forcément la révolte. Un pays colonisateur repose sur le terrorisme, Israël agit en terrorisme, et fidèle au pacifisme, il nous invite à ouvrir les yeux et à abolir l'armée. Ce qui donne du grain à moudre à la campagne Stop Arming Israël pour l'arrêt des ventes d'armes à Israël. Notons aussi que le gouvernement essaye d'accélérer l'embrigadement de la jeunesse avec les uniformes à l'école, mais surtout avec le déploiement du SNU, le Service National Universel, dans les établissements scolaires. Voilà, et le dossier femmes et ruralité, lui, se termine aussi par la rencontre d'une militante solidaire des Palestiniens avec un couple de paysans palestiniens près de Tul Karem en Cisjordanie. Mm-hmm. Voilà, et ça c'est la fin du dossier, mais tu vas nous raconter le début du dossier.
Voilà, le début du dossier, puisque le principe de Casserole, c'est toujours un dossier central, mais il y a avant et après toute une série d'articles très intéressants, oui. dont tu viens de faire écho... et qui sont liés aussi à l'actualité. Alors, ce dossier femmes et ruralité, en fait, on pourrait se dire, mais quel opportunisme, justement, mais pas du tout, parce qu'en fait, les dossiers de Casserole sont préparés très longtemps à l'avance, et ce dossier était déjà annoncé l'été dernier. Bon, donc, voilà. Dans l'édito est dédié à la question palestinienne et la situation à Gaza, mais il se termine tout de même par « Femmes rurales, nous ne laisserons pas la campagne aux hommes ». Bon, c'est le cri du cœur de Casserole. Donc on a préparé avec Progrès un petit parcours là, sur, au gré du dossier, sur 6 articles. Il y en a qui sont très plaisants, humoristiques, et d'autres qui sont sérieux, bien sûr. Alors, le premier, en guise d'introduction plaisante, c'est « Ça t'évoque quoi, toi, la ruralité ?» Et alors, donc, l'autrice de l'article dit « Eh bien, à moi, voilà ce que ça me raconte. Il est tout mignon, ce mot, la ruralité. Il m'évoque la campagne, le terroir, les champs dans lesquels on a envie de se rouler, les jolies vaches qui nous regardent placidement quand on passe à vélo, à pied, etc. etc. » Et elle dit, pour d'autres, ça évoque l'ennui, les cutéreux, les bouseux et les bouseuses, les bouses de vaches et la bouillasse, l'odeur du purin ou du fumier, des kilomètres à parcourir pour acheter du sel, etc., etc. Ça donne quoi, concrètement, la vie à la campagne et la ruralité? Ben, en ruralité, ou chez les bouseuses, l'autrice nous dit, ben, on se connaît, on se soutient. Il y a de l'entraide et du réseau. Elle a une vision assez belle et optimiste de la situation. Elle dit on monte des projets, des assos, on s'invite dans des collectifs, on réfléchit ensemble sur un tas de trucs. L'écologie, l'école, le capitalisme, les luttes sociales, les violences faites aux femmes et aux minorités, la mort, la contraception, l'éducation. On fait de la radio. Certains sont des vrais artistes, pleins de talents. On monte des cafés associatifs et des lieux de spectacle, et etc. Donc, bon, ça donne envie d'y aller. Bon, c'est le premier article pour une mise en apéritif. Un deuxième article que l'on a sélectionné, bon, qui est plus sérieux, Paysanne, il s'intitule Paysanne, et là, il apporte des chiffres et des constats. Il nous dit que, de fait, les femmes ont toujours été présentes sur les domaines, les fermes et les exploitations, mais le plus souvent sans titre de propriété et sans aucun statut, et que le statut de l'exploitante ou de co-exploitante ne date que de 1980. C'est vraiment... la fermière était la femme du fermier, voilà, et elle bossait gratos.
Double.
L'article nous dit que...
Elle bossait double.
Eh bien oui, eh oui. Absolument, voire triple. L'article nous dit qu'il y a chez les paysans, comme chez les sportifs et beaucoup d'ouvriers, le culte de viriliste de la force physique. Et aujourd'hui, pourtant, les femmes sont quand même 30%, pratiquement entre 30% et un quart des co-chefs d'exploitation, alors qu'en 1970, elles n'étaient que 8%. Il y a une certaine évolution. Et plus de la moitié des élevages et des activités autour des chevaux sont tenus par des femmes, et elles sont plus engagées dans la production sous label et l'agriculture bio que les hommes. Il y a 13% de plus que chez les hommes. Et elles pratiquent davantage la vente directe. Et en dehors de l'élevage aussi, elles sont très nombreuses dans le monde de la viticulture. Elle dit, mais l'article remarque qu'en revanche, et sans surprise, dans les instances de pouvoir du monde agricole, ben, elles peinent à s'incruster, hein, que ce soit dans les syndicats, dans les coopératives ou dans les instances représentatives du monde de la paysannerie. Un autre chiffre, dans 1946, les paysans étaient 10 millions en France, et maintenant leur nombre est tombé à 800 000. c'est assez foudroyant comme chute. Bon, c'est vrai qu'il y a des regroupements, des exploitations qui ne sont plus exploitées ou qui sont rachetées, intégrées à des unités plus importantes. Et les femmes, bien sûr, ben, elles gagnent moins que les hommes. Elles gagnent 29% de moins que les hommes. Voilà, bien que majoritairement, elle soit plus diplômée, nous dit l'article. Un autre article sérieux également sur agroécologie et retour aux sources, avec une citation d'une paysanne basque, enfin une paysanne, oui, du Pays basque espagnol, qui fait partie de Villa Campesina, et qui nous dit que dans l'histoire, les femmes ont été au fondement de l'agriculture. C'était les femmes qui faisaient le plus gros du travail dans les champs, parce qu'on les cultivait, ces champs, pour nourrir les familles. Et puis, quand les machines sont arrivées, que ça a cessé d'être un travail collectif, eh bien, les hommes ont pris les rênes de ce travail, particulièrement avec des machines, des tracteurs. Alors, les femmes, oui, sont incluses, mais il y a toujours plus d'hommes que de femmes dans les champs. Alors, il y a toute une analyse disant qu'il y a eu une dépossession séculaire qui s'est faite par la privatisation et la confiscation des terres au fil des siècles. D'abord lors du mouvement des enclosures, qui a fini par se répandre dans toute l'Europe. Et c'est un mouvement qui a consacré l'anéantissement des communs. Et que ça a été terrible pour la petite paysannerie et également pour les femmes, et surtout pour les femmes. Donc on a constaté une régression violente de la condition féminine. Et maintenant, nous dit l'article, eh bien, les femmes vont reprendre les choses en main, et notamment en ce qui concerne justement l'utilisation des machines, puisque la machine est reine. Alors, elles sont à l'origine ces machines conçues pour les hommes, et des hommes du genre viriliste, très peu adaptés bien sûr pour la constitution féminine. Et là, les femmes, eh bien, elles ne vont pas s'adapter aux outils, elles vont adapter les outils à leur morphologie, à leurs besoins. Alors donc, elles se sont regroupées autour d'une coopérative d'autoconstruction qui s'appelle l'Atelier Paysan, et elles vont créer et transformer des outils qui vont devenir adaptés. Elles ont également initié des ateliers non mixtes, là aussi, pour libérer la parole et se ressaisir de la réalité. Elles mènent des réflexions interactives. Quelles sont les fonctionnalités essentielles d'un outil? Donc, elle repense complètement la manière de s'atteler. Non, la manière d'utiliser toutes ces mécaniques. Voilà. Et pour les femmes de Villa Campesina, pour revenir à la citation du départ, dans le monde entier, l'agroécologie est indissociable du féminisme. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, vous n'avez qu'à lire l'article, vous abonner au numéro Casserole. Un petit article aussi très savoureux, c'est « Femmes et patronnes ». Alors, l'article commence, « Le machisme ras les sabots », il règne encore dans les campagnes. Alors, donc, il y a 5 jeunes paysannes, en polaire et en colère, car fatiguées de se heurter au machisme du milieu agricole, elles ont décidé d'y répondre en créant un collectif. Et ce collectif s'appelle les Paysannes en polaire. Elles ont publié une bande dessinée pour raconter leur déboire. La bande dessinée s'appelle « Il est où le patron ?» Chronique de paysannes, parce qu'elles ont remarqué que quand il y a des livraisons ou des personnes qui arrivent d'extérieur, même si elles sont en train de travailler, on dit « Mais où il est le patron ? Il est où le patron ?» Bon, voilà. Donc c'est un vrai documentaire sur les femmes qui ont choisi l'agriculture comme un métier, et c'est un message féministe également. Voilà, donc vous pourrez, vous trouverez sur le site de l'émission tout ce qu'il faut savoir sur cette bande dessinée « Il est où le patron ?». Et enfin, deux petits articles qui sont une sorte, l'un non, mais l'autre oui, je commence par l'un non, c'est sur les secrétaires de mairie. Alors c'est les secrétaires de mairie, c'est les femmes à tout faire, les femmes en ruralité. Parce qu'en fait, les secrétaires de mairie, elles sont à 94%, c'est des femmes, bien sûr, et qui font ce travail souvent à cheval sur plusieurs... Pas à cheval, mais en lien sur plusieurs mairies, dans des communes de moins de 3500 habitants, et il y en a 23 000 en France. Alors ça fait un paquet de femmes qui sont secrétaires des mairies, avec un métier bon, qui peut être passionnant, mais c'est, qui est terrible, parce qu'elles font tout, l'état civil, les renseignements, préparation des élections, arrêtés municipaux, etc., etc. Voilà, donc le petit article décrit tout ça, et qu'en plus, elles sont fort mal payées. Voilà. Et en plus, les deux tiers ont plus de 50 ans, donc elles seront bientôt à la retraite. Actuellement, il y a déjà 2000 postes qui sont vacants, et d'ici 10 ans, il y en aura 10 000 postes vacants. Alors, messieurs, si vous voulez postuler, et que les secrétaires de mairie ne soient plus des femmes à tout faire, mais des hommes à tout faire, bon, pourquoi pas,
hein. Secrétaire, ça rentre bien, hein, c'est totalement inclusif.
Voilà. Et le dernier article bon, que nous voulions évoquer avec Progrès, c'est la ruralité et l'IVG. Mais bon, on va parler tout à l'heure de l'IVG. Mais bon, voilà, avec des choses très bien vues par rapport à justement à la démocratisation de l'IVG. Mais elle se pose des questions sur l'accès à l'IVG, parce que l'IVG par les sages-femmes, et 80% des IVG sont faites par des sages-femmes, doivent être tellement entourés de précautions, de médecins, d'anesthésistes, etc., qu'en fait, les IVG sont forcément effectuées dans des centres hospitaliers importants. Et évidemment, pour des femmes dans la ruralité, ben, y a des kilomètres à parcourir. Voilà, enfin, bon, ce n'était qu'un survol de la ruralité et des femmes et ruralité dans ce dossier de casserole que vous pouvez commander. Vous aurez toutes les données sur le site de l'émission et vous abonner, bien sûr.
Débat d'actualité.
Alors, c'est peut-être à moi de parler ou c'est à Fabienne, je ne sais plus.
Non, mais je vais te passer la parole.
Oh oui, passe-moi la parole.
Donc, voilà, en fait, nous allons revenir dans un premier temps avec Rémi et dans un deuxième avec Esmeralda sur deux événements culturels militants qui se sont déroulés en février et que nous avions évoqués dans l'agenda de février. Donc, tout d'abord, Hugo Paglietta, une rencontre avec donc cet auteur à la librairie du Muguet. Donc c'était la librairie du Muguet et l'OAB, c'est-à-dire l'offensive antifasciste Bordeaux, qui avait invité Hugo Paglietta et qui est auteur de 4 livres sur la fascisation. Et pour la clé des ondes, Rémi, tu étais présent.
Tout à fait.
Pour l'émission Les clés des savoirs. Et cette émission donc propose une heure avec le sociologue Hugo Paglietta. Donc nous y passerons pas une heure, mais donc à écouter ou réécouter le podcast qui est daté du 26 février sur le site de La Clé des Ondes. Les clés des savoirs, ça fait trop de clés pour moi, ouais. Ça. C'est tous les 4e lundi du mois de 20h à 22h. Voilà. Donc Rémi, tu étais donc présent. Peux-tu faire un retour sur, je sais pas, l'affluence, les questions de l'assistance, ton ressenti ?
J'ai envie qu'on écoute d'abord un petit peu et ensuite on va en parler.
D'accord.
Allez, c'est parti.
Allons-y.
Le deuxième aspect, c'est qui, à mon sens, est aussi assez évident, c'est la diffusion importante, et la banalisation et la légitimation par des acteurs politiques et médiatiques centraux des idées, entre guillemets, d'extrême droite. Bon, des idées, des affects, des symboles, des images, etc. Leur banalisation dans le débat médiatique, dans le débat politique, dans le débat y compris intellectuel. Ça, je pense que, là encore, j'ai pas besoin de développer outre mesure, mais c'est pas simplement, comme on le dit souvent, dans l'empire Bolloré, l'empire médiatique en voie de constitution encore aujourd'hui, puisqu'il essaie encore de récupérer d'autres organes de presse, récemment avec le Journal du Dimanche, par exemple, ce qui est, bon, où il a placé un ancien à sa tête de Valeurs Actuelles. Mais on le voit, y compris dans d'autres médias qui sont, pour l'extrême droite, des médias de gauche. Je sais pas, les médias de Radio France, par exemple, et les radios France Inter. Donc vous apprenez sans doute que c'est un grand média de gauche, très à gauche, voire d'extrême gauche. Hein, si on regarde les réseaux de la fachosphère sur Twitter, France Inter est une radio d'extrême gauche. Hein. Donc, vous l'apprenez, mais c'est la vision qu'ils ont des choses. Hein. Bon, sur ces radios-là, on a très régulièrement, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ans ou 10 ans, a fortiori, des représentants de l'extrême droite, y compris pas forcément très connus, hein, mais qu'on invite comme des personnes, comme n'importe qui. Et puis des chroniqueurs, des pseudo-journalistes, des